BFM Bourse, le club de la bourse.
François Dossou, CNIM, bonjour.
Bonjour Antoine.
Et Cyriac Dayan, Sanson Longchamp, IS. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je le disais, un CAC 40 qui termine quasiment au plus haut du mois, en signant deux semaines consécutives de bons redressements. On a eu un petit peu de tout. Alors, on passera en revue les secteurs en détail un petit peu plus tard, mais on a l'impression que les secteurs prenaient les relais des uns des autres et que là, on termine avec des valeurs un petit peu plus traditionnelles. Mais enfin, globalement, les choses se passent globalement bien, François.
Oui, si vous voulez, nous étions arrivés sur les marchés sur un tel niveau de concentration qu'au moment où une concentration, en fait, qui était autour des valeurs pétrolières, de l'IA, et donc, et de l'autre côté, vous aviez les valeurs qui étaient disruptées ou les valeurs qui étaient pénalisées par la fermeture du détroit d'Hormuz. Donc, au moment où on voit, on espère, parce qu'on navigue quand même entre espoir et désespoir, en fait, les nouvelles se suivent, mais elles ne sont pas forcément toujours assez simples à lire. Donc, on a l'impression quand même qu'il y a des négociations qui vont dans le bon sens. Et donc, c'est logiquement qu'au moment où la crise, en fait, commence un peu à se tasser, que les valeurs qui avaient été pénalisées, notamment les valeurs de l'économie traditionnelle, elles rebondissent. Et donc là, vous avez des valeurs du tourisme qui sont en train de rebondir. Mais vous avez aussi des valeurs qui étaient particulièrement absentes des portefeuilles. Et donc, quelque part, c'est une manière de prendre des profits sur ce qui a fonctionné et pouvoir faire une allocation sur des valeurs et des secteurs qui ont moins bien fonctionné. Et donc, ça contribue à une plus grande diversification des portefeuilles. Parce que je redis aujourd'hui, les portefeuilles ont été particulièrement... vous étiez sur un marché qui était très polarisé et vous avez quand même des soucis de diversification dans des portefeuilles aujourd'hui, hein, avec des titres qui sont présents dans tous les portefeuilles et d'autres, tout un pan de la côte sur lequel, en fait, personne ne veut plus se positionner.
Bon. Cyriac Dayan, géopolitique, politique monétaire, on a l'impression finalement que le marché se dit, bon allez, tout est intégré désormais et on recommence à élaborer des stratégies. Est-ce qu'il est un petit peu tôt pour se dire ça ou est-ce qu'effectivement il y a des lumières vertes qui commencent à s'allumer un petit peu partout ?
Il y a une lumière verte sur le marché actions, c'est les résultats des entreprises en fait. Parce que si on regarde la réalité globale des différents marchés, il y a le marché actions qui est revenu plus haut que c'est plus haut, j'ai envie de dire, quand on regarde les actions américaines par exemple. Cette tendance extrêmement impressionnante, elle s'explique par les excellents résultats, et c'est un peu la nouveauté du moment, des excellents résultats aux États-Unis qui sont vraiment stratosphériques. On parle de 28% de croissance de bénéfices sur un an. La nouveauté, c'est qu'en Europe, c'est pas si mal, on est moins bien, on est à 13-14, mais c'est quand même une très bonne nouvelle. Mais c'est le marché actions, il est soutenu par ces résultats des entreprises qui sont extraordinaires, et là, le mot est adapté. Et si vous regardez, par exemple, le marché de taux, vous en voyez pas du tout la même histoire. Le marché de taux, les taux sont quasiment sur les plus hauts de l'année. Et eux, ils considèrent pas que la question géopolitique au Moyen-Orient est terminée. Quand on regarde le pétrole, alors certes, il rebaisse depuis quelques jours, mais il est pas du tout revenu à l'avant annonce de la guerre avec l'Iran. Donc, je dirais que le marché actions, il est un peu seul dans son histoire, mais elle est justifiée pour une raison qui est relativement logique. C'est les résultats. Parce que quand on achète des marchés actions, on achète des résultats des entreprises et qui sont assez extraordinaires.
Mais encore une fois, la clé de tout, ça reste les taux. Alors c'est vrai qu'à court terme, et ça peut être un petit peu trompeur, on en a parlé tout à l'heure avec Michel Ruimi de Lévy Capital Partners, vous pouvez le réécouter d'ailleurs en podcast et en replay, c'était absolument passionnant, on a fait un panorama macro, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'à court terme, on est revenu sur des niveaux, bon, allez, tranquille, de début mai, mi-avril, mais ça peut s'agiter à nouveau très très fort, très très vite et dans pas très longtemps.
Non, il faut faire très attention. C'est vrai que les indices, quand vous les regardez, vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé. Mais une fois de plus, quand vous regardez le CAC 40, hein, vous avez STM qui a plus 160% depuis le début d'année. Vous avez de l'autre côté Essilor qui est à moins 33, Hermès qui est à moins 25, LVMH qui est à moins 25. Donc c'est vrai que quand vous regardez de manière globale les indices, et c'est aussi vrai en termes de valorisation, vous avez quand même des indices qui finalement n'ont pas beaucoup bougé, qui sont valorisés normalement, mais quelque part quand vous redescendez dans la côte, quand vous commencez vraiment à regarder les valeurs une par une, vous vous rendez compte en fait que elles ne sont pas logées à la même enseigne. Et je rebondirai sur le support des bénéfices. C'est vrai que quand vous regardez, il y a une très forte corrélation entre les entreprises et les secteurs qui ont très bien performé et les entreprises qui affichent les meilleures croissances bénéficiaires. Donc, quelque part, on peut considérer que ce marché a une certaine forme de rationalité. Là où il est un peu plus complaisant, mais on reviendra sans doute, c'est sur les valeurs, les valorisations aujourd'hui dans le domaine de l'IA, avec des valorisations qui sont de plus en plus stratosphériques, mais si vous voulez, dans l'économie traditionnelle, mais aussi dans des valeurs telles que les semi-conducteurs, vous commencez à avoir des valorisations qui commencent à être particulièrement tendues, et peut-être rester un peu plus attentif en fait sur le fait que finalement les arbres ne montent pas au ciel. Ouais. Quelle que soit leur capacité à générer des bénéfices, on parle quand même des bénéfices futurs, il y a toujours un côté aléatoire sur des bénéfices qui sont promis aujourd'hui et qui ne sont pas certains.
Cyriac Dayan, c'est vrai qu'on a vu, et on l'a dit hein, en introduction, on a vu pas mal de secteurs animer la cote la semaine dernière, cette semaine aussi, ça aura vraiment été la semaine des semi-conducteurs, on parlait plus que d'STMicro, de Soitec, d'ASML. Est-ce que là aussi, ça a peut-être eu le mérite de mettre le focus en disant, attention, l'un n'est pas au même stade de développement que l'autre, l'un ne fait pas le même métier que l'autre, il y a une certaine granularité, encore une fois, mais justement, ça a le mérite de donner un point de vue beaucoup plus pertinent sur les capacités de croissance de ce secteur.
Oui, ça permet finalement de distinguer, parce qu'on peut le voir de loin, mais quand on regarde ces entreprises que vous citez, c'est finalement des business models, des objectifs qui sont extrêmement différents. Et la corrélation avec l'IA, et l'IA étant un concept qui peut être extrêmement large, elle n'est pas si, en tout cas, elle n'est pas si simple que ça. Mmh. Et donc, à un moment donné, de toute façon, le marché a cette capacité finalement à séparer les sujets, à dire c'est les gagnants, les perdants, mais il y aura des gagnants au sein du monde des semi-conducteurs, il y aura des gagnants sur les data centers, enfin, il y aura des gagnants différents. Et donc, je pense que le marché, et aujourd'hui, en tout cas, les investisseurs sont plutôt dans cette logique-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le CAC 40, puisqu'on va revenir sur cette belle performance du CAC 40 depuis le début du mois, il faut le relativiser d'une certaine manière, parce qu'on est plutôt en queue de peloton sur les grands indices européens depuis le début de l'année. Et ce qui peut nous impacter, c'est aussi la construction sectorielle de notre indice. Et là, vous citiez le retour des banques, et ça serait plutôt une bonne nouvelle pour le CAC, ça, oui. Si on pouvait avoir le retour de la Société Générale ou de BNP, parce que c'est un point important. Mmh. Et donc, globalement, on est vraiment ces rotations sectorielles, et vous citiez à raison, c'est des rotations sectorielles, j'irais pas jusqu'à dire que c'est intraday, mais on n'en est pas très loin. C'est-à-dire que un jour, c'est un secteur qu'on va mettre en avant, le lendemain, c'est un autre.
C'est
et on voit que les dynamiques, finalement, ne sont pas si claires, si ce n'est, et je trouve qu'il y a un élément qui est quand même très intéressant, c'est la qualité, quand vous regardez le style qualité, en
c'est
Europe.
Ça.
Il continue à sous-performer, mais de manière assez extraordinaire. Alors, il y a des petits rebonds, des mouvements, mais il y a vraiment aujourd'hui une sorte de défiance. Et on citait LVMH, on citait ces grandes boîtes françaises qui sont des points importants.
Ouais.
Pour l'instant, il y a des micro-rebonds, mais on n'a pas revu cette tendance de fond qu'on peut tous espérer.
Non, on aurait pu croire, hein, justement, avec les résultats du secteur du luxe, bon, qui globalement n'était pas forcément très très bon, mais pas désastreux non plus. On a eu quelques indications qui étaient positives avec les Richemont, avec les Burberry, etc. Mais c'est vrai que le secteur du luxe n'a pas du tout rebondi en France. En tout cas, comme il mériterait de rebondir et qui permettrait de mettre des munitions de côté. Maintenant, ouais, le secteur bancaire. Et alors, c'est vrai que tiens, ben, Société Générale est plus forte hausse aujourd'hui, plus de 2,5% à 71,85 €. Mais on a un paysage de taux et une activité générale, économique, qui commence à redevenir très favorable au secteur bancaire, qui a signé de très bonnes performances hein, depuis un an et demi, mais qui en a peut-être encore sous la pédale, François.
Oui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le secteur bancaire, ça a quand même bien, il a quand même bien rireté depuis un an.
Oui.
Il a bien rireté, en fait, même si, quand vous regardez, le rerating, il n'a fait que suivre, en fait, leur capacité à améliorer leur rentabilité.
Mmh.
Et donc, il n'y a pas aujourd'hui de déséquilibre majeur sur le secteur bancaire pour se dire qu'il faut absolument continuer à être sur le secteur. C'est un secteur qui a bien performé. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un secteur qui est très dépendant de l'environnement économique. Et ça ne vous a pas échappé, en fait, qu'aujourd'hui, vous avez quand même des indicateurs économiques, notamment en zone euro, qui ont plutôt tendance à ralentir, qui ont plutôt tendance à fléchir. Et de ce point de vue, l'exposition domestique des banques ne peut pas être un soutien au secteur bancaire, qui, comme je le disais tout à l'heure, a quand même déjà bien fonctionné. Non, je pense que nous sommes arrivés dans une ère où, après avoir vu des mouvements plutôt factoriels, où les entreprises, les secteurs sont montés plutôt à l'unisson, il est quand même temps aujourd'hui, et je reviens sur les indices, je pense que le problème, c'est pas le niveau d'indice. Aujourd'hui, le problème, c'est la diversification et aller chercher des entreprises qui en ont encore sous le pied. Probablement que vous avez aujourd'hui dans le secteur bancaire la nécessité de faire des tris entre les valeurs et ne plus être de manière un peu systématique exposé sur toutes les banques comme ça a été le cas jusqu'à présent, où elles ont plutôt toutes bien performé sur les 12 derniers mois, à quelques exceptions près.
Bah, encore une fois, on parle granularité. Hein. C'est vraiment le mot-clé du moment, hein, tous les secteurs. Il y a également, et on ne peut pas s'empêcher de voir les valeurs du tourisme, tiens, les Pierre et Vacances, les Accor. De Richebourg, tiens, qui gagne 6,5% aujourd'hui, avec un relèvement des prévisions. Cyriac Dayan, ces valeurs un petit peu plus traditionnelles, qui étaient un petit peu off-scope là, ces derniers temps, elles reviennent au cœur de l'actualité en disant « Non mais attendez, vous avez vu comment on est géré ? Vous avez vu nos qualités ? Vous avez vu comment on est au cœur de l'actualité et des confluences d'intérêts économiques ?» On a l'impression que là aussi, il se passe quelque chose d'étonnant.
Oui. Alors je pense qu'encore une fois, la granularité, il faut l'avoir aussi dans cette analyse-là, parce qu'on cite des secteurs, le secteur du tourisme, globalement, a été impacté directement par ce qui se passe d'ailleurs encore actuellement au Moyen-Orient.
Mais on se dirait justement, il y aurait toutes les raisons qu'il aille au tapis avant de remonter. Ouais, bah,
il a quand même, alors peut-être que le cas de Pierre et Vacances se distingue, mais globalement, le secteur, si on regarde travel and leisure, donc le secteur global, voyage et loisirs, ça a été quand même une période assez compliquée, les derniers mois, assez violente. À raison, hein, il y a vraiment une forme d'incertitude sur l'environnement global.
Bah, quand on dit à Dubaï qu'on passe d'un taux d'occupation de 80% à 10%, oui, là, c'est du tangible.
Exactement, et le marché a cette capacité d'anticipation ou j'ai même pas envie de dire d'anticipation, d'intégrer de manière quasi automatique et instantanée des données qui paraissent très compliquées. Alors, il peut se tromper, des fois il réajuste, mais en tout cas, l'idée, c'était ça. Et maintenant, on voit que finalement, comme ces valeurs ont beaucoup baissé, on se pose la question de savoir si ça peut rebondir. Donc ça, c'est le premier élément. Après, sur De Richebourg, je pense que c'est une autre histoire, c'est une histoire de qualité. Et là, je vous rejoins complètement. Comme je disais, c'est quand même un style, c'est le pire style en Europe depuis le début de l'année. Et à un moment donné, de se dire que je vais acheter des belles boîtes où il y a de la visibilité, qui sont bien gérées, ça peut paraître une bonne idée. Mais le marché a aussi, et ça, il faut bien l'intégrer, si on a raison seul contre le marché, en fait, on n'a pas raison, on a tort.
C'est ça.
Et globalement, le marché aujourd'hui n'achète pas ces histoires-là, il achète des histoires, le secteur énergétique, bien sûr, avec tout ce qui se passe, mais également tout ce qui est lié à l'IA. Et demain, à un moment donné, la qualité repaye. À un moment donné, dans l'histoire des marchés, ça revient. Mais aujourd'hui, c'est pas le secteur, c'est pas le style à la mode, j'ai envie de dire.
C'est étonnant d'ailleurs, parce que fondamentalement, ça devrait être celui qui marche le mieux, mais non. Mais oui, le marché a des biais comportementaux, effectivement aussi. Allez, encore un petit quart d'heure de cotation du côté de la Bourse de Paris. Et on a un CAC 40 qui est toujours en hausse, plus 0,5%, 8229 points, pas d'excès, hein, on reste sur une progression tranquille, on va dire. Plus 0,33% pour l'Eurostock 50 et même score pour le DAX à Francfort, plus 0,9% pour l'IBEX à Madrid. Un petit coup d'œil sur les marchés américains. Alors tiens, oui, aussi un chiffre important, c'est la volatilité qui est en train d'être repliée. Hein. On parle de l'indice VIX, l'indice de Chicago. On est à 15,5, donc au plus bas depuis plusieurs semaines. Les choses semblent vouloir se calmer du côté des marchés américains en termes de volatilité. Le Nasdaq gagne 0,27%, plus 0,79% pour le Dow Jones et le S&P 500, plus 0,32%. Plus forte hausse du CAC 40 à Paris, c'est Accor, plus 2,31%. 47,75 €, plus forte baisse Sanofi, moins 1,8% à 74,98 €, puis il se passe des choses sur le SBF 120, sur l'indice large de Richebourg, dont on vient de parler à l'instant, gagne 6,6%, 10,17 €. La plus forte baisse, elle est pour Eutelsat, des prises de bénéfices assez violentes, mais enfin, il faut dire qu'on sort de semaine de hausse continue, moins 13,9%, 3,88 €. Un petit coup d'œil sur les marchés pétroliers et on a une très nette baisse. Le Brent de Mer du Nord retrouve le plancher des 90 $, 90,31 $. Et du côté du Brut léger américain, on est à 86,79 €. Tiens, on va peut-être parler justement de toute cette vogue autour du spatial, autour du... Il y a quand même la méga introduction de SpaceX qui est attendue là pour très très prochainement, dans les prochaines semaines. Malgré tout, on sent qu'Elon Musk est un petit peu plus prudent. Il avait en tête des chiffres de valorisation de 2000 milliards de dollars. Bon, visiblement, ce sera un petit peu moins. Donc, on fait tactique, hein, c'est comme une introduction traditionnelle. On essaie de ne pas faire un prix trop cher pour pouvoir prendre de la valeur encore en bourse le premier jour et éviter de décourager les investisseurs. Et on a l'impression qu'il se passe la même chose autour d'Anthropic, qui nous donne des... Enfin, source officieuse qui nous donne des chiffres de valorisation qui iraient du côté des 1000 milliards de dollars. Moi, j'ai entendu 1400 il y a encore deux ou trois semaines. On a l'impression que même les supercadors qui vont s'introduire en bourse bon, sont sur un pied un petit peu prudent en disant « ça va être très disruptif de s'introduire en bourse, alors autant y aller au juste prix ». Syria, c'est votre impression justement ?
Oui, je pense que c'est... Il n'y a rien de pire qu'une introduction en bourse qui se passe mal et l'action décroche de 10, 20, 30%, sachant que un certain nombre d'actionnaires privés de ces sociétés ont des engagements de pas vendre les actions sur une certaine durée. Donc c'est pas non plus dans leur intérêt d'avoir un pricing extrêmement élevé si l'action cote 100 et que quelques jours plus tard finalement elle est à 90. Tout le monde serait plus ou moins perdant. Alors certes, peut-être sur la une des journaux, ça serait mieux de dire que c'est à 2000, mais si c'est à 1800 ou même 1500 SpaceX, bon, ça reste quand même des montants extrêmement importants. Et aussi, il faut bien avoir en tête que le marché, finalement, le prix d'une action, c'est de l'offre et la demande. Et là, on n'est pas sur des marchés organisés. Et donc, c'est une estimation, et une estimation qui, par nature, est moins parfaite que quand c'est quelqu'un qui achète ou qui vend une action. Donc, je trouve assez sain, finalement, que par rapport à ces annonces, il y ait des révisions à la baisse. Ça me semble logique, mais ça reste dans des proportions assez limitées, finalement. Et puis, surtout, les montants qu'on annonce, c'est historique. Il n'y a pas, d'histoire avec des introductions aussi importantes. Donc, ça, il ne faut pas non plus l'oublier.
François, qu'il y ait un minimum de rationalité chez les acteurs les plus irrationnels de ce marché.
Oui, ben moi, c'est rassurant. Je pense qu'on est quand même sur l'épaisseur du trait. Hein, parce que si vous voulez, une valorisation à 2000 milliards ou 1800 milliards, ok, c'est peut-être 10% plus faible. Moi, ce que je constate quand même, c'est que la valorisation, elle intègre 90 fois le chiffre d'affaires. Certes, sur un marché qui est à peu près équivalent à la taille du PIB américain, mais on reste quand même sur des valorisations qui restent stratosphériques. Et ce n'est pas le fait d'avoir baissé de 10%. Non, la valorisation qui va changer quelque chose. Non, ce qui va quand même vraiment changer quelque chose de mon point de vue, c'est le fait que quand vous regardez la partie du capital qui est introduite en bourse, elle est quand même ridicule.
Oui, elle est minuscule.
Donc là, vous êtes en train d'organiser les conditions d'une pénurie qui vont évidemment se retrouver qui vont être impactantes sur le titre. Moi, je me pose encore la question, comment est-ce qu'on peut aller, enfin, d'un point de vue réglementaire, comment est-ce qu'on peut exposer. Après, c'est difficile de mettre des seuils de capital, mais là, si vous voulez, toutes les conditions sont réunies, ils peuvent mettre à peu près n'importe quel niveau de valorisation, vu le peu de titres qu'ils offrent au marché. Ça ne peut que bien se passer. Donc c'est pas. Non, moi j'ai une lecture un peu différente sur le fait qu'ils s'inquiètent. Je pense que là encore, on est un peu dans une sorte de mascarade où on fait semblant de donner l'impression qu'on se soucie. Notamment, il a annoncé qu'une partie importante était réservée aux investisseurs particuliers, aux retail, hein, pour dire que moi j'aime bien les investisseurs retail. La réalité, c'est qu'il détiendra toujours 42% du capital, 42% avec des droits de vote double, c'est-à-dire 84%. Donc soyez prêts à être minoritaire auprès de Elon Musk. Avec bon courage, soyez pas trop regardant sur la gouvernance. Non, je pense qu'on commence à rentrer dans des excès avec des histoires qui sont pas forcément les plus
reluisantes,
en fait. Les plus reluisantes.
Mais
en bourse.
Il y a un facteur qui est quand même important, parce que c'est vrai que c'est un cas symptomatique, et puis encore une fois, on est en plein, on est en pleine galaxie Musk. Parallèlement, il y a Anthropic, il y a OpenAI qui doivent s'introduire aux bourses. Là aussi, on a l'impression d'une certaine prudence, dans le sens où, on prend toute la mesure du trou noir que c'est comme entreprise. On en parlait un petit peu plus tôt dans cette émission. On a l'impression qu'on ne fait des bénéfices que autour du trou noir. Maintenant, le trou noir en lui-même, c'est Event Horizon. On ne voit rien. On ne sait pas où ça va. Et donc, du coup, on a peur d'être tellement disruptif que le grand public et les investisseurs se mettent d'un coup à pu aimer l'IA. Cyriac.
Ah, c'est un point très important que vous soulignez, c'est-à-dire que quand on est sur des marchés cotés, il y a des obligations légales,
oui.
Donc on monte des chiffres, on les monte de manière normée, ce qui permet de comparer toutes les entreprises les unes avec les autres, c'est des normes. Quand on est sur des actions ou des sociétés qui ne sont pas cotées, la lisibilité ou la compréhension, elle est quand même beaucoup plus réduite. Et donc là, mécaniquement, et c'est un peu le revers de la médaille pour ces entreprises, c'est qu'elles vont être obligées un peu de se dévoiler, dévoiler combien ils gagnent sur leur business model, combien ils vont rentrer, et quelles sont les perspectives à moyen long terme, et quels sont finalement les taux aussi de réussite entre les gens qui utilisent ChatGPT ou Claude ou je ne sais quoi, et ceux qui vont accepter de payer. Et donc, et je pense que ça, c'est un élément qui va être extrêmement important dans la compréhension de tout cela. Et donc, on va avoir une forme de principe de réalité qui va s'imposer à tout le monde. Mmh. Et oui, je pense que d'une certaine manière, ces entreprises sont pris entre deux tendances. C'est-à-dire, d'un côté, rentrer sur le marché listé, c'est la possibilité de rentrer, j'ai envie de dire, dans le vrai monde des entreprises et pouvoir, surtout quand on a ces tailles-là, pouvoir un peu se développer. Et puis, pour les actionnaires historiques aussi, sortir une partie de leurs actions. Mais c'est aussi le sujet de dire qu'on nous a vendu une belle histoire avec des dépenses qui sont quand même stratosphériques. Je pense que l'IA en tant que telle, c'est une révolution majeure. Néanmoins, il faut toujours se rappeler la bulle Internet. Alors, je fais pas une comparaison directe, mais en 2000, on a cramé énormément de cash pour qu'en 2010 ou dans les années suivantes, on puisse avoir l'Internet qu'on utilise aujourd'hui. Et ce cash, il a été cramé finalement à bon escient, puisque ça nous a permis de développer. Par contre, les gens qui ont mis l'argent en 2000, l'ont pas retrouvé, en tout cas pas de cette manière-là. Et donc, il faut bien avoir en tête que les dépenses qui sont stratosphériques aujourd'hui, il y a une partie de cet argent qui sert un peu à développer l'infrastructure globale et ne sera pas forcément rentable de la même manière que ce qu'on a pu voir dans les années 2000.
Encore une histoire de granularité. On n'en sort pas.
Toujours au même point.
Ouais. François, le mot de la fin. Bon, on signe quand même un joli mois de mai sur le CAC 40 pour. On dit souvent sell in May and go away.
Non, non. Ouais. Ouais, je pense que le CAC 40, si vous voulez, grâce à une rotation qui va s'accélérer, je pense que jusqu'à présent, on a vu que parmi les titres qui ont rebondi, il y a quand même pas mal de rachats de shorts. Je ne sais pas comment l'interpréter. Je pense que probablement qu'il y a des investisseurs qui ont bien gagné sur les shorts, les ventes à découvert, et qui sont plutôt en train de réduire le risque action. Et donc, ça, ce n'est pas forcément un élément très encourageant. Par contre, je vois que sur tout un pan de la côte des valeurs de croissance dont on parlait tout à l'heure, qui sont restées au tapis, qui n'ont pas encore rebondi, je mise sur cette seconde phase de rebond qui va être sur une sorte de rebond un peu plus sain, un peu moins. On achète systématiquement ce qu'il y avait. Dans les phases de rebond, ça commence toujours de manière assez brutale comme ça. Et après, on commence un peu à être un peu plus sélectif. Et donc, je pense que le CAC 40, de par sa composition sectorielle, notamment son exposition au secteur de luxe, pas encore surperformé sur les semaines et les mois à venir.
On l'attend, ça se réveille du luxe. Hein. Il y a eu quelques petits frémissements, mais enfin, rien de bien notable. Et ça pourrait être le tournant, justement, ce rebond du secteur du luxe.